Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux. Chaque semaine, accompagnée d'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne Lorpineau.
C'est parti!
Bienvenue dans cet épisode court consacré à un objet culturel, le texte incendiaire de Valérie Solanas, Scum Manifesto, sorti il y a plus de 50 ans, se voit aujourd'hui réédité en français aux éditions Mille et Une Nuits. À l'occasion de cette ressortie, on va revenir sur sa postérité avec Anne-Laure. Salut!
Coucou! Vivre dans cette société, c'est au mieux y mourir d'ennui. Rien dans cette société ne concerne les femmes. Alors à toutes celles qui ont un brin de civisme, le sens des responsabilités et celui de la rigolade, il ne reste qu'à renverser le gouvernement, en finir avec l'argent, instaurer l'automation à tous les niveaux et supprimer le sexe masculin.
Alors, est-ce que tu peux déjà nous faire un petit topo sur Valérie Solanas ? Qui est-elle ?
Alors bien sûr, on avait déjà parlé de Valérie Solanas dans un épisode qu'on avait consacré à la violence des femmes. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que le parcours et les écrits de Valérie Solanas ont été invisibilisés. C'est pas rare malheureusement, mais surtout, ça a été réduit à son lien avec un homme, à savoir Andy Warhol. Elle reste pour beaucoup la femme qui lui a tiré dessus. Preuve de son invisibilisation, son Wikipédia français l'a décrit comme une féminazie.
Ah !
L'enfer. Ce qu'on peut dire d'elle, c'est que elle a vécu une enfance aux États-Unis particulièrement difficile. Elle a été victime de violences sexuelles de la part de son père. Elle a été battue par son grand-père. De ce milieu compliqué, elle a fugué. Elle est devenue travailleuse du sexe et avec l'argent qu'elle a gagné grâce à son travail, elle est parvenue à s'offrir des études à l'université. Elle a étudié la psychologie et à Berkeley quand même, Berkeley.
Incroyable.
Ouais, elle a tenu une libre antenne où elle donnait des conseils sur comment combattre les hommes. Donc c'était déjà quelque chose qui arrivait tôt dans sa construction. Dans les années 50, elle a fait quelque chose qui à l'époque était très rare, à savoir son coming out lesbien. Dans les 60s, donc quelques années après ça, elle est devenue ce qu'on appelle une clocharde céleste, c'est-à-dire une écrivaine sans abri dans les rues de New York. Et c'est là que le fameux Andy Warhol lui est tombé dessus, ou l'a pris sous son aile, ça dépend comment on se place. Et donc, il l'a invité à la Factory en lui faisant croire qu'il allait devenir son mentor, alors qu'en vérité, il s'en fiche complètement. Et d'ailleurs, Valérie Solanas lui confie l'unique exemplaire du manuscrit de sa pièce qui s'appelait « Up your ass ».
Dans ton cul.
Dans ton cul. Une pièce qui parlait du parcours d'une jeune prostituée. Il lui dit qu'il aimerait la produire et finalement, non seulement son retour, c'est que la pièce est obscène, alors que bon, on parle quand même d'un gars qui a fait sa carrière sur des pyramides de soupe, mais bon. Et en plus, le gars paume le manuscrit. Donc, il faut imaginer la détresse de Valérie Solanas, qui est quand même une femme précaire, sans ressources, qui n'a pas de contact dans le milieu et qui se fait traiter comme une merde, en fait, avec une désinvolture folle, par une célébrité masculine. Donc, tout ça crée la rage. Et donc, un jour, elle lui tire dessus, ainsi que sur d'autres personnes qui l'environnaient, donc son assistant, par exemple.
In June, pop artist Andy Warhol is shot and critically wounded by a disgruntled would-be actress named Valérie Solanas, who tells Jim Gash in this necessarily censored tape. Valerie, why did this happen?
Because he's a...
Well, let's clean it up a little. Could you try to put it on the air? Why did this happen?
Because he's a piece of garbage.
What did he do to you?
Well, let's say, you know, my organization is Scum. You know, he wouldn't wear anything to control Scum.
Et elle a été arrêtée, internée pendant des années, et on y reviendra tout à l'heure, mais elle est morte à San Francisco en 88 dans une grande misère.
Son nom reste en effet synonyme de dangereuse dérive radicale, puisque d'ailleurs elle n'a pas été en odeur de sainteté pendant longtemps. Beaucoup diraient qu'elle est la personnification de ce que les gens craignent chez les féministes, c'est-à-dire des lesbiennes qui veulent couper les couilles des hommes et avorter des enfants mâles. Bref, une Amazone du XXe siècle. Sachez par ailleurs que sa vie fait l'objet d'une bande dessinée qui vient de sortir aux éditions Glénat. C'est Scum, la tragédie Solanas, par Théa Rojman et Juan Bernardo Muñoz Serrano, qui en font tous les deux le portrait d'une femme qui a la folie des grandeurs et qui est vraiment mégalomane, qui court après la célébrité, comme plein d'artistes masculins par ailleurs. Hein.
Tout à fait.
C'est pas quelque chose de très original. Mais ce qui est intéressant dans cette bande dessinée, c'est qu'elle montre visuellement la société scum que Valérie Solanas imagine, et c'est assez vertigineux. Et par ailleurs, la romancière suédoise Sara Stridsberg lui a aussi consacré un livre, son deuxième livre, c'est La faculté des rêves, et elle raconte sa découverte de l'autrice. Je la cite dans l'Obs. J'ai lu le Scum Manifesto et j'ai eu l'impression d'entendre la voix de Valérie parler dans mon cerveau. Sa violence, sa sauvagerie m'ont littéralement habité. Valérie est toujours décrite comme une femme mauvaise, folle, et je voulais la peindre autrement. Il faut savoir que ce roman a aussi été adapté au théâtre en France par Christophe Rauque l'an dernier pour celles et ceux qui ont eu la chance de le voir sur scène.
Grâce aux progrès techniques, on peut aujourd'hui reproduire la race humaine sans l'aide des hommes, ou d'ailleurs sans l'aide des femmes, et produire uniquement des femmes.
Et autre fun fact, Lena Dunham, la créatrice de la série Girls, a elle-même joué le personnage de Valérie Solanas dans la série de Ryan Murphy, American Horror Story. C'est la saison qui s'appelle Cult.
You had too much control over my life. Down with the patriarchy. Suck my dick, Warhol.
Et d'ailleurs, à cette occasion, les spectateurs et spectatrices n'avaient pas aimé son accent. Voilà, on vous laissera juge de cette performance. En tout cas, pour revenir au texte, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi retourne le Scum Manifesto ? Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est ?
Déjà, le texte, c'est un pamphlet misandre, on ne peut pas le décrire autrement. Et il a été écrit directement après le sale coup de Andy Warhol, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, Scum, c'est l'acronyme de Society for Cutting Up Men, qu'on pourrait traduire par « collectif d'émasculation » en français. Scum, en anglais, c'est aussi la boue, les exclus de la société. Donc, elle a utilisé le mot parfaitement. Elle en parle un peu comme d'un mouvement social de détravail, de destruction du capitalisme, mais c'est aussi un pied de nez artistique. Enfin, ça, c'est peut-être mon opinion, mais j'ai l'impression que ce qu'elle propose, c'est un miroir inversé. Les seuls hommes autorisés à vivre dans le monde de Scum sont les auxiliaires masculins, c'est comme ça qu'elle les appelle, ce qui est un peu une transposition du fait qu'en tant que femme, refusant d'être elle-même une auxiliaire, Solana sait qu'elle prépare son rejet ou son élimination prochaine du monde géré par les hommes. En tout cas, toute pauvre qu'elle soit, elle a auto-édité ce puissant brûlot. Elle a enjoint ses lectrices et ses lecteurs, quelques-uns, à renverser le gouvernement, éliminer le système de l'argent, instituer l'automatisation totale et éliminer le sexe masculin. Et elle l'a distribué dans la rue. $1 pour les femmes, 2,50 pour les hommes.
Tout un programme. Et donc, c'est vrai que ce texte, qui est écrit en 1967, il faut le rappeler, c'était il y a une cinquantaine d'années, s'inscrit pleinement à l'époque dans le féminisme états-unien des années 70, puisqu'il aborde à la fois la question des mouvements sociaux, la vie en communauté, les hippies, la critique de la bourgeoisie, et que c'est un texte qui entretient une réelle parenté avec la critique féministe, marxiste et matérialiste de l'appropriation des moyens de production et de reproduction féminins par les hommes. D'ailleurs, en France, c'est ce que Colette Guillaumin appelle le sexage, par exemple. Et pourtant, et je pense que c'est vraiment intéressant à souligner, Valérie Solanas elle-même refusait de se reconnaître dans le mouvement féministe qu'elle décrivait comme étant, je cite, un salon de thé de la désobéissance civile. D'ailleurs, dans le texte, elle fustige à plusieurs reprises ce qu'elle appelle les filles à papa. Elle leur dit de se réveiller. Et dans la bande dessinée, on voit aussi Valérie Solanas assister à plusieurs réunions féministes. Il est vrai qu'à l'époque, au sein du groupe qui s'appelait NOW, donc National Organization for Women, il y avait d'un côté la frange radicale menée par Tigrace Atkinson et de l'autre Betty Friedan qui était plus modérée. Ces deux franges se sont beaucoup opposées sur la question et le cas de Valérie Solanas. Que faire de cette personne ? Et d'ailleurs, à tel point que celle-ci les a envoyées paître toutes les deux. Voilà.
Débarrassée des convenances, de la gentillesse, de la discrétion, de l'opinion publique, de la morale, du respect, des trous du cul, toujours surchauffés, pétant le feu, sales et abjectes, les scum déferlent. Elles ont tout vu, tout le machin, baise et compagnie, susbite et suscon. Elles ont été à voile et à vapeur, elles ont fait tous les ports et se sont fait tous les ports. Il faut avoir pas mal baisé pour devenir anti-baise. Et les scums sont passés par tout ça. Maintenant, elles veulent du nouveau. Elles veulent sortir de la fange, bouger, décoller, sombrer dans les hauteurs. Mais l'heure de scum n'est pas encore arrivée. La société nous confine encore dans ses égouts, mais si rien ne change et si la bombe ne tombe pas sur tout ça, notre société crèvera d'elle-même.
C'est génial. Et tu parlais tout à l'heure des hippies. J'adore ce qu'elle en dit dans Scum. Elle dit « Au nom de la coopération et du partage, ils forment une communauté ou une tribu qui, en dépit de tous ces principes de solidarité et en partie à cause d'eux, ne ressemble pas plus à une communauté que le reste de la société. » Elle dit « C'est une extension de la famille. Elle ne fait que bafouer un peu plus les droits des femmes, violer leur intimité, détériorer leur santé mentale. » Donc, Elle est très critique vis-à-vis des hippies, la fameuse révolution sexuelle de l'époque.
Oui, c'est-à-dire que les contre-cultures sont elles-mêmes finalement des extensions du patriarcat. Mmh. C'est intéressant
c'est
de souligner aussi. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment le texte a été reçu ? Est-ce qu'il a été lu à l'époque ? Quelle est sa postérité ?
Sa réception est assez fascinante puisque d'abord, évidemment, le manuscrit a été refusé par l'éditeur Maurice Girodias, qui était pourtant connu pour avoir un fonds de commerce d'auteurs et d'autrices sulfureux, voire très douteux, puisqu'il a publié le Lolita de Nabokov. Et quand elle a fait donc la tentative d'assassinat, alors le fameux Maurice Girodias est revenu vers elle. Le mec était un petit peu finaud quand même, il a vu le truc, et il a même proposé une préemption des 5 prochains bouquins de Solanas, ce qui lui a bien foutu les chocottes. Elle voulait appartenir à personne, donc elle a couru à travers champs. Donc à la sortie du livre, beaucoup ont considéré que la radicalité du texte était secondaire puisque c'était d'abord un texte drôle. Ils ont invoqué un second degré drôlatique. Évidemment, cette personne ne peut pas être sérieuse dans ce qu'elle dit. Et elle s'est défendue en réfutant absolument tout. Non, il faut bien rayer les hommes de la carte. C'est bien ce qu'elle dit, c'est bien son projet. Et c'est comme ça qu'elle défend son texte. Et cette défense va être utilisée contre elle dans le procès de la fusillade. Le journaliste Robert Marmostein du Village Voice a affirmé que Solanas a dédié sa vie à l'élimination de tous les hommes de la surface de la Terre. C'est un peu trop subtil pour lui de voir plutôt qu'elle parle de l'avènement des femmes, je pense. Et Norman Mailer, qui est pourtant pas un enfant de cœur, donc c'est un auteur et un acteur, la qualifie même de Robespierre du féminisme.
Ouh là là, ça fait frémir dans les chaumières. Alors, on peut avoir aujourd'hui quelques réserves, puisque c'est un texte daté et qu'il faut le resituer dans son contexte de l'époque. En effet, c'est un texte qui exclut les personnes trans en invoquant une transidentité politique. Elle en parle ainsi, je la cite, « Si les hommes étaient intelligents, ils chercheraient à devenir femmes ». Voilà, donc il faut garder quand même ce point critique en tête.
Ouais, grosse réserve quand même.
Ouais, bien sûr. Néanmoins, ce qui est fort, c'est que rien pourra lui faire fermer le bec, ni les violences qu'elle a subies dans l'enfance, ni les violences du système patriarcal, ni le mépris d'Andy Warhol et des célébrités qui l'entourent, ni l'hôpital psychiatrique, ni la pauvreté, puisque jusqu'au bout, elle se battra pour cette idée, cet idéal du scum. Il faut savoir qu'elle est morte dans le dénuement le plus total à San Francisco et qu'à sa mort, sa mère a tout brûlé, mais pas son héritage, heureusement. Et donc la pièce de théâtre « Up Your Ass » a finalement été retrouvée dans une vieille malle et a été jouée en 2000. Et aujourd'hui, le scam est republié, donc tout va bien.
Ouf.
Gloire à elle. Alors justement, parlons un peu de la version française de ce texte, puisqu'il nous est arrivé il y a déjà un petit moment, et de sa réédition et du contexte de sa réédition.
Alors déjà, on peut dire qu'en France, la traduction originale du texte, on la doit à Emmanuel Delessay, qui l'avait traduit en français dans les années 70. Elle avait utilisé des expressions incroyables que, perso, j'adore utiliser aussi, comme « s'envoyer des pilules derrière la cravate ». Et elle avait fait circuler son texte à ses amis féministes d'abord, puisque je pense qu'à l'époque, clairement, aucun éditeur ne l'aurait suivi. Et il a été republié bien plus tard, assorti d'une postface de, attention, roulement de tambour, Michel Houellebecq.
Tatin.
Comme si il fallait évidemment quelqu'un pour un peu rabaisser le caquet d'un féminisme radical, ou en tout cas encadrer la parole comme un cordon sanitaire, parce que sinon ce serait pas possible. Ce qui est drôle, c'est que Michel Houellebecq a quand même dit que Solanas était la seule féministe qui trouvait grâce à ses yeux.
Merci.
Je ne sais pas si c'est un compliment. Et donc aujourd'hui, je pense à une époque où on peut se revendiquer de Valérie Solanas, et je pense que c'est pour ça que les éditions Mille et Une Nuits l'ont republié. On a le texte avec en plus une postface féministe de Lorraine Bastide, et ça, c'est vraiment très chouette.
Oui, cette postface de Lorraine Bastide, qui fait donc la poudre chez Nouvelles Écoutes, est vraiment salutaire parce qu'elle explique à quel point il est problématique de la part des éditeurs et des éditrices de vouloir cadrer à tout prix le discours de Solanas, à la fois pour le rendre acceptable ou en expliquer l'absurdité ou le côté comique. D'ailleurs, on rappelle que les grands textes misogynes, qui sont nombreux, ne sont absolument pas assortis d'introduction ou de postface explicative à ce point-là.
Ouais.
Et elle explique qu'il serait peut-être temps de prendre au sérieux Valérie Solanas plus de 30 ans après sa mort. Elle dit aussi, et franchement, ça fait du bien de le lire, qu'elle doute de sa propre légitimité à s'exprimer sur ce texte et qu'elle espère qu'un jour, une travailleuse du sexe sera finalement invitée à écrire pour parler d'une sœur de lutte. On l'espère peut-être pour la prochaine édition à venir.
À fond. Toi, c'est quoi ta citation préférée dans le SCUP ?
Alors, il faut savoir qu'il y a tout un tas de one-liners et de punchlines assez folles. Notamment, les hommes sont des fausses couches ambulantes, des godemichés ambulants, et aussi cette citation quand même à encadrer. Chaque homme sait au fond de lui qu'il n'est qu'un tas de merde sans intérêt.
Non, c'est vrai qu'on rigole, mais c'est parce qu'il y a quelque chose un peu, je suis désolée, hein, mais d'agréable à lire des phrases comme ça. Je trouve qu'il y a plein de phrases misandres qu'on pourrait se faire tatouer. Moi, je suis fan particulièrement de « Les hommes sont des Midas d'un genre spécial, tout ce qu'ils touchent se change en merde ».
Bam.
Mais ce que je préfère vraiment, c'est l'injonction à la radicalité anarcho-féministe qu'elle fait. Je cite « Scum est impatiente. Scum ne se laisse pas consoler par la perspective des générations futures. Scum veut s'éclater tout de suite. » Et si la grande majorité des femmes étaient scum, elles parviendraient en quelques semaines aux commandes du pays en refusant de travailler, c'est-à-dire en paralysant la nation entière. Si toutes les femmes laissaient tomber les hommes tout simplement, le gouvernement et l'économie nationale s'effondreraient. J'adore. Ça me rappelle un peu le poème de Zoé Léonard, « I wanna die for president », qui était vraiment trop cool.
Ça fait rêver.
Et du coup, t'en as pensé quoi ?
Pour être très honnête, j'avais lu le début du Scum Manifesto, je pense dans le cadre de recherche ou de mon travail, je sais plus.
Mmh.
J'avais pas lu jusqu'au bout et du coup, là, je suis hyper contente d'avoir eu l'occasion de le lire en entier parce que c'est un texte qui est à la fois très subversif. Je pense que ce qu'elle dit est en partie toujours assez inaudible. Mmh. Et qu'en plus, il est vraiment d'actualité. Et je pense que c'est assez essentiel de le replacer dans le contexte de cette ressortie post-MeToo, puisque précisément, on est à un moment où il peut être lu, relu et réapprécié, redécouvert, puisque aujourd'hui, on se pose à nouveau la question de la vengeance,
ouais,
voire de la violence légitime de la part des femmes. Et d'ailleurs, on voit bien son influence dans les écrits misandres à la fois chez Virginie Despentes, chez Pauline Armange, mais aussi chez l'écoféministe Françoise Daubonne, par exemple. Moi, j'ai l'impression que ce texte, c'est une réponse à des siècles de misogynie passée à déprécier les femmes. C'est presque un exercice de style, en fait, qui consiste à renverser le propos de tous les discours misogynes qu'on a intériorisés depuis des siècles. Et donc, elle, en retour, elle essentialise le patriarcat. Elle dit donc que le mal est par nature raté. Et d'ailleurs, son diagnostic qui est le suivant, nous vivons dans une société androcentrée, à l'image du masculin, les hommes sont responsables de l'aliénation du travail capitaliste, de la guerre, de la paternité traditionnelle, de la construction homophobe de la virilité face à des masculinités subalternes. Finalement, c'est encore assez actuel comme constat, enfin, je trouve. Et toi, du coup, je pense que tu es fan depuis plus longtemps que moi.
Bah, je suis fan déjà parce qu'il y a une personne qui est belle, en fait, qui a des yeux révoltés, des yeux qu'on a pu... considéré comme des yeux fous, mais oui, fous de rage en fait. Solanas, ce qui me touche un peu dans la sortie de cette réédition, c'est le fait que ça s'inscrive dans leur story, c'est-à-dire on va la réhabiliter un petit peu. Elle a été tellement maltraitée dans la réception de son texte, tellement maltraitée par des générations de masculinistes, même des générations de féministes un peu molles du genou, qui l'ont utilisée pour se faire de la pub. Évidemment que le Scum Manifesto, c'est immonde. Évidemment que c'est trop. Mais c'est un peu comme la lecture de Dirty Weekend ou comme le final de Boulevard de la Mort où les meufs écrasent la tête du gars qui a essayé de les tuer. C'est une lecture vraiment cathartique et le personnage de Valérie Solanas et le personnage de la créatrice de cette société-là, le Scum, ça me fait un peu penser aux Furies antiques, cette geste archi-féministe de tuer les hommes qui sont des agresseurs. C'est disproportionné, mais d'ailleurs c'est un peu ce que dit Lorraine Bastide, elle dit c'est un petit peu une légitime défense, enfin on a le droit de le dire que c'est une légitime défense dans la construction personnelle de Valérie Solanas et dans sa construction intellectuelle et artistique. Ce qu'elle a fait, à savoir tenter d'assassiner Andy Warhol, ça pouvait être une légitime défense. Je suis pas juge, je ne prétends pas l'être, mais en tant que lectrice, je ne dirais pas que je suis fan de Valérie Solanas, mais en tout cas, j'éprouve beaucoup d'empathie à son égard. Et donc, je partage beaucoup de l'avis de Lorraine sur ce point.
Oui, c'est vrai qu'on est socialisé à trouver tous les débordements féminins comme étant pas légitimes. En réalité, cette réponse outrancière, elle vient aussi face à une violence qui a été outrancière à l'encontre des femmes. Donc, en fait, il y a une rationalité dans ce discours, en fait. Ça fait sens. Et je pense que Valérie Solanas serait... absolument ravie de voir que ce texte est encore lu et redécouvert, et je pense que c'est vraiment ce qu'elle voulait à l'époque. Je ne sais pas si elle se serait doutée de sa postérité. Moi, c'est vrai que de mon côté, j'ai toujours trouvé que c'était un texte un peu repoussoir, et je pense que moi-même, j'ai été victime un peu de ces stéréotypes négatifs, et voilà, ça me paraissait pas très désirable comme livre à acheter ou comme pensée à développer. Mais maintenant que je l'ai lu, je trouve qu'effectivement, c'est un vrai exutoire. En plus, c'est pas du tout un texte théorique sentencieux, parce qu'il est très drôle, en plus d'être très court. Donc n'hésitez pas à l'offrir autour de vous pour Noël prochain. Et d'ailleurs, des personnes se sont même désabonnées de mon compte Instagram après que j'en ai posté des extraits. J'ai reçu des messages horribles.
Oh mon Dieu!
Comme si c'est moi qui l'avais écrit, quoi. C'est vraiment incroyable. Enfin, c'est dire vraiment le pouvoir subversif de ce texte. Et d'ailleurs, on rappelle quand même que la misandrie n'est pas systémique, contrairement à la misogynie, sinon les hommes tomberaient comme des mouches. Mais quand on voit le tintouin suscité par le livre d'Alice Coffin. Vraiment, on espère que toutes ces personnes vont lire Le Scam Manifesté.
Ouais. On peut rappeler qu'il coûte 4,50€.
Voilà, donc vraiment, colportez-le dans la rue, comme Valérie Solanas le voulait. Si vous êtes colleur, colleuse, affichez-le sur les murs. Voilà, vous savez quoi faire. En tout cas, moi, contrairement à ce que dit Valérie Solanas et aussi Lorraine Bastide, pour moi, le texte n'est pas nécessairement à prendre au pied de la lettre, mais oser simplement penser à un monde sans hommes, parce que ça nous fait des vacances, reconnaître qu'on peut avoir envie légitimement de les éliminer. Et d'ailleurs, fantasmer, c'est pas nécessairement passer à l'acte.
Encore heureux.
Voilà, je trouve ça très salutaire de pouvoir le dire, y compris dans un langage ordurier. Et effectivement, tu le disais tout à l'heure, il y a aussi une deuxième lecture qui est souvent occultée, puisque Valérie Solanas est aussi la chantre d'un matriarcat assez utopique. Et d'ailleurs, le livre est dédié au début à ce qu'elle appelle un funky female world, donc un monde féminin funky. Et effectivement, le texte, c'était aussi un appel à l'insurrection, tu l'as dit, puisque les scums, c'est aussi les mauvaises filles, les laissées pour compte. Voilà, donc debout, les damnés de la terre.
Yay!
Bon, bah, on espère que vous allez lire le Scum Manifesto et nous faire quelques retours. Vous trouverez toutes les références dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux @quadmeuf et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode long où l'on parlera de jeux vidéo. Merci, salut Anne-Laure.
Salut!
Quadmeuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté avec Anne-Laure Pinault.
Prise de son, Adrien Beccaria à l'arrière-boutique. Mixage, Laurie Galigani. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Montage, réalisation et coordination, Ashley Tola.